Chapitre 5. L'amour-propre d'Allégrille ne fut pas aussi froissé qu'on pourrait le croire d'une personne de son caractère. Elle appartenait à ce genre de coquettes, habituées à souffrir des déceptions et des mécomptes, à supporter le dédain et même le ridicule. Paco Guzman, l'un des adorateurs d'Allégrille, était entré chez Clémentia avant le départ de Sir Georges. Les agaceries d'Allégrille auprès de l'Anglais l'avaient rendu jaloux, ce qui devint pour elle une sorte de revanche de la défaite qu'elle venait d'éprouver. Elle sortit, accompagnée de Paco Guzman, bien qu'elle ne pût ignorer combien les assiduités de ce jeune homme offusquaient le marquis, même avant son mariage. À peine dans la rue, Paco Guzman éclata en reproches et en récriminations. Allégrille lui répondit par des éclats de rire, ce qui l'exaspéra encore davantage. « Tu es bien toujours la même, lui dit-il amèrement. Ta plus grande joie est de rire du mal que tu fais. Comment ne pas rire de l'idée que cette longue perche surmontée d'une tête en poire de ronde a jamais pu me plaire? Tu n'as parlé qu'à lui. Rien ne m'amuse comme de l'entendre prononcer l'espagnol. Si je ne lui ai pas ri au nez, c'est uniquement par respect pour moi-même. Tu l'as engagé à venir te joindre à Madrid. C'est pour faire enrager Clémence, qui ne le voit pas, je crois, d'un mauvais œil. D'ailleurs, Paco, tu le sais, ajouta Allégrille, on m'accuse d'être coquette. Eh bien oui, j'aime à être admirée, adorée, de façon à rendre toutes les autres femmes jalouses. Et que t'importe à toi, mon premier, mon unique amour? En me forçant à un mariage antipathique, ma mère n'a arraché de mon cœur aucun de mes anciens souvenirs, ni de mes affections d'enfance. » En disant cela, Allégrille apporta son mouchoir à ses yeux pour essuyer des larmes dont on devine la fausseté. Absorbé par cette conversation intime, Allégrille et Paco Guzman ne virent pas un homme couvert d'un manteau qui, depuis leur sortie de chez Clémentia, les suivait à une certaine distance. Lorsqu'ils arrivèrent chez la marquise de Cortegan, ils étaient complètement réconciliés. Allégrille affectait un petit air de victime. Paco Guzman se montrait plus gai, plus pétulant que jamais. Ce soir-là, la marquise était encore au salon, assise sur son grand fauteuil. Constance, calme et impassible comme toujours, se tenait auprès d'elle. Allégrille entra seule et, prétextant un léger mal de tête, alla s'asseoir au brasero. Ensuite parut Doña Eufrasia et, un peu plus tard, Paco Guzman. Doña Eufrasia, qui lui gardait rancune, ne put pas s'empêcher de dire tout bas à Constance en l'apercevant. « Quelle comédie, ma chère! Il était tout à l'heure avec ta sœur. Je les ai vus ensemble. »« Ce n'est pas étonnant, » répondit Constance. « Pas étonnant, » reprit la sévère Doña Eufrasia. « On voit bien que ton confesseur a la manche large. Le mari d'Allégrille ne veut pas, tu le sais, que ce jeune homme accompagne ta sœur. Quand une femme désobéit ainsi, c'est un cas de divorce. » « Nous avons un nouveau ministère, » dit Paco Guzman à la marquise, après l'avoir salué et s'être informé de l'état de sa santé. « Cela m'est bien égal, » répondit-elle en soupirant. « C'est sortir de Scylla pour tomber dans les Caraïbes !» s'écria Doña Eufrasia, voulant dire qu'on tombait de Caraïbes dans Scylla. « Que vous ont donc fait les ministres, madame, pour les traiter de Caraïbes ?» demanda Paco Guzman. « Ce qu'ils m'ont fait, belle question. Ils en rendront compte au jour du grand jugement, les fripons, les voleurs, et vous les défendez, c'est peut-être par esprit de contraposition. » « Il ne paie pas exactement sa pension, » dit la marquise. Doña Eufrasia leva au ciel ses grands yeux ronds sans répondre. « Ah, je comprends, » reprit Paco Guzman, « la pension de veuve. Les veuves, quelle plaie! Dans aucun pays, on ne trouve autant de veuves qu'en Espagne. Elles sont innombrables, universelles, elles se dédoublent, elles pullulent. Chaque employé en laisse 50, chaque militaire 100. Il n'y a pas de budget suffisant à payer leurs pensions, c'est un puits sans fond pour les revenus de l'État. Il est désolant de penser que le produit de tous ces impôts exorbitants qui nous écrasent serve non pas à la prospérité du pays, mais à l'entretien de toutes ces femmes inutiles qui vivent de notre sang comme des sangsues monstres. Combien il serait à souhaiter qu'un nouvel Hérode, dans l'intérêt du trésor, ordonnât un massacre général de ces innocentes veuves. La surprise et l'indignation de Dona Eufrasia, en entendant ces paroles, furent telles que, pour la première fois de sa vie, elle déposa son air martial et résolu pour prendre un air de victime. « Jusqu'ici, monsieur, dit-elle avec emphase, la veuve et l'orphelin avaient inspiré la pitié et le respect. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Mon Dieu, rien n'apaisera-t-il donc votre colère et devez-vous frapper l'Espagne comme autrefois les villes coupables ?»« Madame, poursuivit Paco Guzman, quand je serai député, afin de remédier à ce malheur, je proposerai au Cortés d'adopter, à l'égard des veuves espagnoles, l'excellente coutume qui existe dans le Malabar. » « Quelle est cette coutume ? » demanda Dona Eufrasia, vivement intriguée. « Madame, dans ce sage pays, quand meurt un homme marié... » « Après. » « Son intéressante veuve... » « Eh bien, son intéressante veuve... » « N'allez pas croire qu'on lui donne un autre mari, pour cela, non. » « Mais que fait-on ? » « On allume un bûcher... » Un bûcher, quelle idée! À quoi cela peut-il servir? À terminer tous ces mots. Comment? Oui, car elle s'y précipite et s'y brûle. Quelle horreur! Quelle barbarie! S'écria Dona Eufrasia en levant les mains au ciel. Cela crierait vengeance si c'était vrai, mais comme de nos jours on fait plus de mensonges que d'au monde, je n'en crois rien, monsieur. C'est pourtant vrai, madame. Dans ce pays, modèle des vertus conjugales, toute veuve honnête rougirait de survivre à son mari. Si l'on allumait des bûchers pour tous ceux qui altèrent la vérité, vous seriez, j'en suis sûre, la première victime, lui dit Dona Eufrasia en colère. Il ne ment pas, ma chère, lui dit la marquise, pour couper court à une discussion qui la fatiguait. Cet usage existe parmi des sauvages qui ne sont pas encore chrétiens. Cela doit être, s'écria Dona Eufrasia. Voilà pourquoi Paco, qui ne l'est guère, est bien capable de conseiller pareille abomination pour ajouter encore une sottise de plus à tant d'autres que les semblées ont faites. Qu'on ne nous parle plus de l'Inquisition, elle brûlait les Juifs, que Dieu ait leurs âmes, mais vouloir brûler les veuves parce qu'on le fait en Malabar, c'est pousser trop loin l'esprit d'imitation. Ah, mécréant, si mon mari vivait encore, on verrait. Quant à vous, Paquito, malgré votre horreur pour les veuves, vous paraissez depuis un mois être singulièrement épris de l'une d'elles. Je sais tout, entendez-vous? Comme je ne suis pas ministre des Finances, j'aime les veuves, pourvu que leur veuvage soit postérieur à la guerre de l'indépendance. Reprit Paco Guzman, piqué au vif par cette brusque interpellation qui faisait allusion à Clémentia. Constance, dit la marquise, le bouillon n'était pas bon, il m'a fait mal. Ma mère, je l'ai passé moi-même à travers un linge mouillé. Tu veux toujours avoir raison, n'en parlons plus. Je voudrais me retirer, je me sens fatiguée. Andrea doit me veiller cette nuit. « Je désire pourtant que tu ne me quittes pas, Constance. »« Je resterai auprès de vous, ma mère. » Constance prit alors le bras de la malade avec douceur et précaution. « Tu me fais mal, » lui dit sa mère. « Quelle main de fer !»« Je vous soutenais pour éviter une chute. Vous êtes si faible. » « Oui, mais le remède est pire que le mal. Eufrasia, donne-moi ton bras. Ma fille est trop maladroite. » Dona Eufrasia vint aider Constance. Allegria ne bougea pas et profita du moment où elle se trouva seule avec Paco Guzman pour lui faire une scène au sujet de l'allusion aux veuves qu'elle avait fort bien compris être dirigée contre Clémentia, dont elle dit tout le mal possible. Un moment après, entrèrent Don Gallo, Don Silvestre et quelques autres habitués de la maison qui furent étonnés de n'y pas trouver le marquis de Valdemar. Allegria était inquiète. « C'est singulier, » dit tout à coup Don Silvestre. « Quoi donc ? » demanda Allegria. Le soleil n'a pas paru depuis 3 jours. « Il se sera perdu, » répondit-elle avec humeur. « Qu'avez-vous, marquise ? » demanda Don Gallo. « Vous paraissez distraite. » « C'est le meilleur moyen de passer son temps à Séville. »«
Je comprends, vous trouvez à dire le marquis. »« Calmez-vous, madame, il aura été retenu par quelque ami au casino. »« Voulez-vous que j'aille le chercher ?»«
Il ne manquerait plus que cela. »« Pensez-vous que je le crois perdu, comme Don Sylvestre craint que ne le soit le soleil ?» reprit sèchement Allégria.
Le lendemain, Allégria entra dans la chambre de la marquise en affectant un air de bonne humeur.
« Mère, dit-elle après avoir effleuré différents sujets, Valdemar a reçu hier des nouvelles de Madrid. Sa présence y est nécessaire, aussi est-il parti ce matin. Il m'a chargé de vous exprimer ses regrets de n'avoir pas pris congé de vous. Un départ est toujours triste et il a craint d'augmenter vos souffrances par l'émotion. Il reviendra aussitôt que ses affaires le lui permettront. »
La marquise avait écouté sa fille sans trop faire attention, mais Constance avait pâli.
« Dieu veuille que ton mari revienne bientôt, » dit la malade. « Il me tenait souvent compagnie, et puis il me veillait la nuit, ce que tu ne pouvais faire. Et les enfants ?»«
Il les a emmenés avec lui, » répondit Allégria.
« Partis aussi ?» s'écria la marquise.
Leur grand-mère demandait à les voir, et mon mari est trop bon fils pour le refuser à sa mère. J'aurais cependant préféré les garder.
Oui, dit la marquise, ton mari est un bon fils et de plus un bon gendre.
Constance s'étant approchée d'une commode, sur laquelle il y avait une carafe pleine d'eau, elle en remplit un verre et, d'une main tremblante, l'approcha de ses lèvres. Elle avait tout prévu, maintenant elle comprenait tout. La version d'Allégria était fausse de tout point. Constance en avait la conviction. La vérité était dans cette lettre qu'Allégria avait trouvée ce matin sur sa toilette.
« Madame, l'homme peut et doit pardonner. Le pardon est une vertu généreuse, il est aussi un devoir du chrétien. L'homme ne saurait pourtant reprendre la femme qui a oublié ses devoirs. Un lien profané a cessé d'exister. Les lois divines et humaines, l'honneur et la conscience, se réunissent pour le dissoudre. Je ne veux pas de scandale. Le sang n'efface aucune tache. Il souille la conscience. Je ne puis cependant couvrir le crime d'un voile hypocrite. L'absence est le seul moyen d'éviter un éclat malheureux. Rien ne manquera d'ailleurs à la mère de mes enfants, si ce n'est le respect qu'elle ne mérite plus, et l'estime de son mari dont elle s'est rendue indigne. Valdemar.
Allégria pleura beaucoup à la lecture de cette lettre, non de douleur ou de repentir, mais de rage et de dépit de perdre une belle position. Comme elle n'avait ni tact ni cœur, elle se remit vite, comme on l'a vu, et descendit d'un air tranquille dans la chambre de sa mère. Quelque invraisemblable que paraissent les faits que nous racontons, ils n'en sont malheureusement pas moins réels. Quand le monde voit des effets dont il ignore les causes, il les suppose toujours ces causes défavorables, même lorsqu'elles ne sont pas. Aussi, il n'était guère probable que le brusque départ du marquis en menant ses enfants et quittant sa belle-mère dans la position où elle se trouvait, fût interprété dans le sens que cherchait à lui donner Allégria. Non seulement la vérité fut connue, mais encore on l'orna de toutes les exagérations que la médisance s'est si bien trouvée. Paco Guzman, désespéré de ce qui arrivait et par respect pour les convenances, partit pour l'Estramadour. Allégria, piquée au vif de cette résolution et incapable de la comprendre, encore moins de l'apprécier, chercha à se consoler de cette absence. Paco Guzman en fut indigné, mais non affecté. La raison avait déjà commencé à le faire réfléchir. L'éloignement lui fit comprendre la noble conduite du marquis et aussi le rôle odieux et méprisable qu'il avait joué lui-même.